donc nous allons passer tout de suite au premier sujet. Donc nous avons un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Sylvain Kotzmann, donc qui est enseignant, compositeur, musicien, bénévole à l'April, qui va nous parler de MuseScore, un logiciel d'édition de partitions musicales. Et je précise tout de suite que Sylvain s'occupe de la post-production des podcasts de Libre à vous, donc c'est un grand plaisir que tu sois avec nous. Bonjour Sylvain, tu nous entends bien ?
Oui, bonjour, bonjour Fred, bonjour à tous, je vous entends bien, merci.
Alors déjà, bon, je te fais une courte petite présentation, mais est-ce que tu veux compléter ta présentation personnelle ?
Non, elle est déjà assez complète. Je suis principalement professeur de musique dans un petit conservatoire à Saint-Palais-sur-Mer. J'enseigne la formation musicale, ce qu'on appelle le solfège, et la musique électroacoustique. Et voilà, je compose de la musique aussi pour des orchestres, des musiciens, ou pour de l'image, des documentaires. Et j'anime une toute petite maison d'édition qui s'appelle L'Octanphare, où j'utilise notamment MuseScore et d'autres logiciels libres. Voilà.
D'accord, super. Alors, première question, j'ai envie de te poser. Donc, MuseScore, c'est la notation musicale pour tout le monde, mais pourquoi écrire des partitions ?
Alors, on écrit des partitions parce que pour faire de la musique, quand on veut acheter des partitions, bah, souvent le prix d'une partition peut être élevé. Souvent, on achète un bouquin entier alors qu'on a besoin que d'une partition parmi tout le recueil qui est vendu. C'est un petit peu de la vente forcée de recueil de partitions. Les derniers titres récents qu'on voudrait avoir, les derniers tubes à la mode, eh ben, on les trouve pas forcément en partition. Il y a un grand délai avant d'avoir les titres qui soient disponibles en partition. On a une version papier, mais on voudrait avoir une version PDF pour l'échanger sur Internet. Et les partitions existent souvent pour les instruments les plus populaires, mais pour son instrument à soi, ben, parfois la partition n'est pas disponible, donc on a besoin de la réécrire avec un logiciel. Voilà les principales raisons pour lesquelles on écrit la musique, on réécrit ou on écrit la musique avec un logiciel.
D'accord, super. Alors d'où vient MuseScore, sa petite histoire ?
Oui, alors pour faire bref, MuseScore, ça remonte au début des années 2000, en 2002. C'est Werner Schwer, qui est un informaticien allemand, mais qui a une passion, qui fait du piano. Et donc, il décide de créer un petit programme pour noter les morceaux de piano qu'il compose. Et ce programme, il l'appelle Muse, M-U-S-E, hein, Muse. Et ce petit programme va ensuite se transformer en MuseScore, un éditeur de partitions plus élaboré. Il y a deux autres personnes qui vont le rejoindre hein, jusqu'en 2008, c'est Nicolas Froment, un Français, et Thomas Ponté, un Belge. Et ces trois-là vont créer le site internet musescore.org en 2008 et développer toujours ce logiciel MuseScore et essayer de le porter vers le grand public. En 2011, ils créent leur société, MuseScore BVBA, où les trois travaillent sur le logiciel. Et MuseScore continue de se développer avec une grande communauté qui se développe autour, hein, en tant que développeur ou traducteur ou contributeur de toutes sortes. Hein, et ça devient tellement difficile à gérer à trois personnes que cette petite société créée en 2011 est revendue à Ultimate Guitar, une grosse société basée en Russie, en 2018, voilà, pour continuer à faire avancer le logiciel. Donc voilà en gros l'histoire de MuseScore qui est à peu près le logiciel d'édition musicale le plus utilisé aujourd'hui dans le monde hein, puisqu'on a des milliers de téléchargements par jour, c'est traduit en 66 langues, il y a plus de 1000 traducteurs, presque à peu près 200 développeurs, une bonne quarantaine qui sont très actifs. Donc ça en fait un logiciel qui est vraiment très, très actif et qui évolue rapidement.
D'accord, donc c'est un peu comme VLC qui est dans son domaine le logiciel le plus téléchargé et c'est un logiciel libre. Finalement, dans la notation musicale, le logiciel le plus utilisé est aussi un logiciel libre et c'est MuseScore. Donc.
Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais.
D'accord. Bon, ouais. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas trop l'écriture de notation musicale, des partitions, etc., quelles sont les principales fonctionnalités de MuseScore ?
Alors c'est très simple, MuseScore permet de tout faire, mais pour être précis, quand on voit une partition de musique, on voit des portées avec des notes, des rythmes, etc., eh bien MuseScore permet d'écrire ça, c'est-à-dire qu'on a une partition vierge sous les yeux, hein, des portées comme ça, sans rien, et on vient poser nos notes et nos rythmes en utilisant différentes notations pour le piano, pour la guitare, la clarinette. Donc on a une partition classique, entre guillemets, qui s'écrit avec le logiciel. On peut aussi faire des tablatures, donc pour tous ceux qui jouent des instruments à cordes, guitare notamment, hein, la tablature c'est la façon d'écrire la musique en ayant sur les portées, non pas des notes de musique classique entre guillemets, mais les chiffres qui correspondent aux cases que l'on pose sur les doigts. Donc on peut écrire aussi en tablature, et les deux sont liés. D'ailleurs, je peux écrire de manière classique et ça me le transforme en tablature, ou l'inverse, je peux écrire en tablature et ça me le transforme de manière classique automatiquement. Donc on peut écrire des partitions pour un seul instrument, pour un orchestre entier. C'est tout à fait complet, opérationnel. Tout ce qu'on voit comme partition sur Internet ou dans le commerce, on peut le faire avec MuseScore, en fait.
D'accord. Donc c'est de la composition, de la création. Toi, tu as dit tout à l'heure que tu enseignais, donc je suppose que tu l'utilises beaucoup dans le cadre de l'enseignement et de l'apprentissage.
C'est ça. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était que j'ai le même outil, enfin que mes élèves aient le même outil que moi, donc ils puissent installer à la maison le même logiciel. Je me rappelle quand j'étais en fac, on avait été formé sur un logiciel qui s'appelle Final, qui coûtait très cher, et on adorait aller faire nos cours, mais quand on rentrait à la maison, on n'avait pas le logiciel. Il y avait une grosse frustration. Donc le fait d'avoir un logiciel libre, ça nous permet de faire tomber cette barrière. Et moi, mon outil, eh bien, mon élève chez lui a le même outil. Et ça, c'est vraiment génial. Ouais, donc c'est pour ça aussi que j'ai basculé sur MuseScore à temps plein, entre guillemets, dans mon utilisation, parce que ça fait tomber ces barrières-là. Et pour la pédagogie, c'est vraiment super. D'autant plus dans ces temps de confinement où chacun va travailler un peu chez soi. MuseScore, là, en ce moment, est, je sais, est très utilisé par beaucoup de professeurs et d'élèves.
D'accord. Et donc, comment, si on veut l'installer, c'est disponible sur toutes les plateformes. Il y a également une application mobile. Comment on fait ?
Oui, si on veut l'installer, on va sur le site officiel qui est musescore.org. Et faut savoir que c'est multiplateforme, hein, donc ça marche sur les Linux, BSD, Windows et macOS aussi. Pour Linux, on a une app image qui est disponible, mais aussi des paquets, hein, pour les principales distributions, hein, Ubuntu, Gentoo, Mint, Debian, Fedora, etc.
On va préciser qu'une app image, c'est un sorte de fichier binaire qui s'exécute tout seul, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Un prêt à l'emploi, on va dire.
Un prêt à l'emploi, voilà, exactement.
Qu'on peut installer. Ouais. Donc, il faut, pour utiliser MuseScore, on utilise l'ordinateur. Hein, et, on ne peut pas encore écrire, puis je pense que ce ne sera pas un jour fait. On n'écrit pas à partir d'une tablette ou d'un smartphone. Il y a des applications qui existent qui s'appellent MuseScore sur tablette ou smartphone, mais c'est juste pour lire les partitions ou les entendre ou les écouter, les faire défiler. Mais pour fabriquer la partition, on reste sur l'ordinateur.
D'accord, donc c'est disponible sur toutes les plateformes, donc les distributions libres GNU Linux, les autres systèmes et applications mobiles. Si on veut se former, est-ce qu'en dehors de l'utilisation dans les conservatoires, parce que par exemple mon fils qui fait de la musique l'utilise au conservatoire, est-ce qu'il y a des formations un peu plus générales ou en dehors des conservatoires ou des formations en ligne ?
Ouais, ça reste assez marginal. On peut se former tout seul déjà en autonomie parce qu'il y a vraiment une grande communauté qui est très active et il y a beaucoup de ressources, notamment toujours sur le site officiel où on a un forum qui est très réactif, des tutoriels, le manuel en ligne. On trouve aussi d'autres ressources, hein, sur des chaînes, sur des plateformes de vidéos, etc. Si on veut aller plus loin, on a aussi des cours en ligne, on va dire officiels, qui sont faits par AF Media. Hein. AF Media, c'est Amandine Fressier qui est en Bretagne et qui a mis en ligne les cours. On a une plateforme de cours en ligne, en fait, ou de A à Z pour un abonnement, je crois, qui est 25 euros à vie. On peut accéder à tous les cours avec de la vidéo, de l'accompagnement, etc. Maintenant, sur les formations en présentiel, c'est assez rare. On peut en faire soit dans des rassemblements comme le Capitole du Libre, au passage en scène, où on a parfois des conférences ou des ateliers, mais ça, c'est assez ponctuel. Sinon, on a des associations, des écoles de musique qui proposent des fois de former leurs adhérents. Et donc là, on peut être sollicité. D'accord. Pour venir faire une formation. Parfois, c'est ouvert au grand public. Hein. Sinon, les professeurs de musique, dans leur formation continue, maintenant, ont accès à des stages de formation à MuseScore. Mais finalement, les formations, j'allais dire, en présentiel sont assez rares encore sur le territoire.
Ok, d'accord. En introduction, j'ai dit que tu t'occupais de la post-production des podcasts de Libre à vous. Donc, déjà, merci pour ce travail intense et important. On a lancé un appel parce que pour un peu aussi te décharger et puis que d'autres personnes éventuellement puissent t'aider, parce que tu fais ça quand même toutes les semaines. Est-ce qu'en quelques mots tu peux expliquer ce que représente le travail de post-production d'un podcast ?
Oui, bah c'est finalement une autre manière d'écouter l'émission. On récupère l'enregistrement de l'émission, on récupère l'habillage de l'émission et des musiques qui sont diffusées, et ensuite on va commencer par faire un nettoyage. Donc on réécoute l'émission en faisant un nettoyage de tous les petits ratés de prononciation, les petits bruits de bouche, les choses comme ça. On essaye de nettoyer pour que ce soit le plus agréable possible à écouter ensuite. On replace les musiques et les jingles pour vérifier que tout est bien au même niveau. Et ben, tout ça sur une émission d'une heure et demie, il faut compter 2 heures, 2 heures et demie d'écoute pour faire ça. Et voilà. Donc maintenant, j'écoute plus l'émission en direct, je l'écoute quand je fais le montage. Voilà, comme ça, je gagne un petit peu de temps. Mais c'est voilà en gros ce que ça représente, hein. On se met dans un logiciel, un multipiste quelconque, Artour ou autre, hein, et on édite de l'audio comme ça.
D'accord. Bah, pour l'émission du jour, ça va être un peu particulier pour toi parce que tu vas t'auto
C'est ça.
post-produire et en plus avec un démarrage délicat.
C'est ça.
Voilà. Bon, en tout cas, donc, si des personnes ont des compétences et du temps pour aider Sylvain à la post-production des podcasts de Libre à vous, n'hésitez pas à nous contacter. Écoute, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose sur MuseScore ou sur autre chose, Sylvain?
Non, rien de spécial, juste il y a les références qui vont être ajoutées sur la page, donc
tout à fait.
les personnes pourront se référer aux différents liens qui seront insérés, et voilà, n'hésitez pas en tout cas à essayer ce logiciel et puis à aller poser des questions parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont d'une grande aide, hein, sur la communauté, sur les forums, etc.
Ouais, les deux ressources en ligne principales, c'est musescore.org. Pour les ressources et les partitions en ligne, il y a musescore.com.
Oui, c'est vrai. Si on recherche une partition, même si on n'utilise pas MuseScore, le logiciel, MuseScore est une plateforme de partage de partitions, effectivement, où on a actuellement plus de 700 000 partitions. Alors, toutes ne sont pas forcément des grandes partitions ou des standards ou les derniers tubes à la mode, mais on a quand même un grand choix de partitions qu'on peut télécharger librement et échanger librement. Faut pas hésiter à aller piocher là-dedans et aller voir ce qui s'y passe.
Ok, bah écoute, merci Sylvain. Donc, je te remercie et puis bon courage pour le traitement du podcast du jour. Donc,
merci,
c'était Sylvain Kotzmann, enseignant, compositeur, musicien et bénévole à l'April, qui nous a parlé donc de MuseScore, la notation musicale pour tout le monde.